C'est parti,
ouais.
C'est maintenant.
Ouais.
8 heures dans le bureau de Par Jupiter où Guillaume arrive.
Coucou Juju. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es zinzin, c'est pas mon anniversaire.
Mais c'est pas ça. Mais je croyais que c'était Charline qui arrivait.
Non, mais t'es zinzin quand même, c'est pas son anniversaire non plus.
Eh ben oui, mais c'est festif. Et puis moi je connais pas de chanson de joyeux retour.
Bah attends, mais elle est pas encore là?
Eh ben tu vois bien, non, je l'attends. Ah.
Tu me files une langue de belle-mère?
9h dans le bureau de Par Jupiter.
Je comprends pas pourquoi elle arrive pas.
Mais enfin, mais laisse-lui le temps. Elle doit causer au 5e étage avec tous ceux de la matinale, et voilà.
Genre, elle aime mieux les gens de la matinale que nous, quoi.
Oh, mais genre, ça n'a rien à voir. Commence pas à faire ta jalouse.
10h dans le bureau de Par Jupiter. C'est pas un peu répétitif, là, le sketch?
Et si elle s'était perdue entre le 5e et le 6e étage?
Ah oui, ça c'est possible. Elle prend l'escalier, là il y a eu un trou noir.
Ouais, genre une faille spatio-temporelle peut-être.
Voilà, elle se retrouve au 6e étage, mais en 1981, juste avant les présidentielles.
Ouais.
C'est Henri Krasuki qui est l'invité de la matinale. Ils se sont perdus en comptant les étages et il lui dit: mais tu te trompes dans les chiffres, eh ben, ça sera pas la première fois.
Oh là là, mais t'es lourd.
11h dans le bureau de Par Jupiter.
Mais dis, quand reviendras-tu, dis, oh, moi le sais-tu.
À quelle heure on estime qu'on est définitivement perdu, là?
Midi dans le... Bon, écoutez, vous faites comme vous voulez, mais moi j'en ai ma claque, hein. Salut.
Bon, allez, non, mais ça suffit, Juju, allez, viens, on va écrire le journal, on va chercher les sons, tout ça, le boulot, tout... Mais qu'est-ce que tu fais, Juju?
Mais je pleure.
Mais non.
Elle nous a quittés, Guillaume.
Mais non.
Là, voilà la vérité,
mais non.
Elle nous a quittés.
Mais Juju, mais pleure pas comme ça, j'ai envie de pleurer aussi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission qui ignore où est sa capitaine, mais connaît son âge. Et aujourd'hui, nous faisons nôtre la devise du regretté rappeur Notorious B.I.G. Sky is the limit. Sauf que nous, notre azur, c'est le cuir synthétique en matière plastique du canapé de Mamie Berthe. Clara Dupont-Monod, bonjour.
Bonjour Juliette.
Vous allez nous parler d'un livre de Blanche Léridon intitulé Odyssées ordinaires, le matin, mode d'emploi.
Il est 9h15, bonne journée à tous.
Ferme ta gueule.
Salut Guillaume.
Bonjour Juliette Tarnot.
Qui êtes-vous alors? Qui qu'il est?
Eh bien, pour les pitchounes, je vais parler journalisme. Aujourd'hui, les journalistes sont pointés du doigt dans la désinformation. Alors, je suis allé voir les gens pour savoir à qui se fier exactement.
L'information, c'est Pascal Pro, c'est le big boss.
C'est, je dirais, la valeur sûre.
Et la masterclass cinéma du jour est assurée, va être assurée par Mathias Malzieu. Bonjour.
Et bonjour.
Oui, vous allez nous parler d'un film de Jim Jarmusch qui a pour titre Dead Man, l'homme mort.
D'accord. Donc vous voulez pas du tout que je vive.
Et donc à mes côtés aujourd'hui, Guillaume Meurice.
Oui,
Guillaume Meurice, quelle équipe avez-vous composée aujourd'hui?
Énormément de talents aujourd'hui autour de la table. Ça change un peu, me disiez-vous tout à l'heure, avant de commencer l'émission. Tout d'abord, une personne qui nous fait aimer la langue française, mais qui malheureusement n'était pas dispo. Maître Capello ne répond plus au téléphone, donc on a demandé à Laëlia Véron. Bah, on va faire avec. Bonjour Laëlia.
Merci Guillaume pour cette présentation.
Je vous
bonjour.
En prie. De quoi vous allez nous parler?
De rhétorique, de négation et un peu de Jean-Michel Blanquer.
Ah, ça faisait longtemps,
on aime
ça
plus
nous fait
ça.
Toujours plaisir. Ensuite, on retrouvera une personne, et ses chansons sont plébiscitées par tous nos auditeurs, c'est vraiment incroyable. Mais malheureusement, François Feldman n'était pas dispo non plus, donc on a demandé à Guédré. Guédré, bonjour.
Hey, bonjour, je vais essayer de le remplacer tant bien que mal.
Vous allez nous chanter une chanson à propos de quoi?
Je vais dire aux enfants que parfois, même avec la meilleure volonté du monde, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire pour eux et qu'il faut qu'ils se débrouillent.
Voilà. D'accord, c'est mystérieux, mais on a hâte. Et enfin, son accent et son talent d'écriture ont conquis le public français. Mais Michel Leb n'était pas dispo, donc on a demandé à Rukyata Ouedraogo. Bonjour Rukyata.
Bonjour Guillaume.
De quoi vous allez nous parler?
J'espère que je ferai mieux que lui.
C'est pas mal là déjà, gardez cet accent là, c'est hyper bien.
D'accord, très bien, je le garde. On va parler de Blabla Caisse aujourd'hui.
Blabla Caisse, très bien.
Et puis ajoutez à cela des exercices shootés à l'adrénaline, un journal qui est tout sauf cucu la praline, un dessin dont l'intitulé a été inventé sous mescaline, et vous aurez une émission toujours orpheline de sa Charline.
Oh là là.
France Inter, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Par Jupiter.
Non, Par Jupiclas, au boulot!
Et on va commencer avec notre invité, Mathias Malzieu. Bienvenue dans la classe redoublante de Par Jupiter. On est vraiment très...
Attendez, non,
Qu'est-ce que c'est? Oh les faillots!
Excusez-moi pour le retard, donc ça c'est un casque, hein, donc un micro, et c'est rouge, on est à l'antenne.
Le micro c'est
chiant. Excusez-moi, j'ai perdu justement l'habitude. C'était 17h l'émission, c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà. On n'a pas changé.
Il est 17h13, j'ai un peu de retard, excusez-moi.
Et c'est France Inter.
Je reprends la boutique là, donc c'est fini la récré, les gars, merci. Mais il y a un moment, faut que ce soit de nouveau un peu carré.
Non, mais on avait essayé d'être carré.
Je suis de retour après plus de 3 semaines d'absence. J'étais partie écrire les discours de Valérie Pécresse. À la demande de Bruno Retailleau. Et puis dimanche, je me suis dit, je vais peut-être retourner à Part Jupiter. Et voilà, puis je suis heureuse d'accueillir Mathias Malzieu dans la troupe. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Que fait Mathias Malzieu en ce moment? Est-ce qu'il est sur un dossier de la chanson ou un dossier de roman plutôt?
Il est plutôt sur un dossier de roman et il fabrique des chansons pour le dossier d'après.
Ah, d'accord, très bien. Votre roman s'intitule Le Guerrier de Porcelaine, c'est paru chez Albin Michel. Il s'agit d'une histoire familiale.
Oui, c'est l'histoire de mon papa quand il a perdu sa maman en Deuxième Guerre mondiale. Il doit traverser la ligne de démarcation, donc il va être caché dans une charrette de foin pour aller se jeter quelque part dans la gueule du loup, parce qu'il va être en territoire annexé. Mais il va pouvoir être gardé par la grand-mère, une tante bigote insupportable, mais aussi un tonton hâbleur et trafiquant de poèmes.
Vers quel âge vous avez appris cette histoire ou vous en avez été conscient de sa portée
Régulièrement, il y avait un moment dans les repas de famille où mon père racontait qu'il avait traversé la ligne de démarcation cachée dans une charrette de foin. Donc c'était à la fois une légende urbaine et en même temps c'était à la fois triste et joyeux parce que de ce moment un peu dramatique où il ne savait pas quand est-ce que la guerre allait finir, quand est-ce qu'il allait sortir, s'il allait revoir son père, il nous transformait toujours ça un petit peu en western épique. Ah. Et puis il y avait des photos de l'époque, on le voyait sur le vélo de son oncle, il y avait une lettre qui est arrivée, qu'il la lise, de la dernière lettre de sa mère, des choses comme ça. Et en même temps, il n'y avait jamais de victimisation. Il y avait toujours un côté un petit peu comme une aventure. Ouais. Et c'est quand moi je suis tombé malade ensuite que c'était compliqué de le voir arriver à l'hôpital, et il avait donc déjà perdu sa maman très tôt, et notre maman aussi très tôt. Et son petit, ça a commencé à faire beaucoup. Donc, on parlait soit de football, Mondial 2014, notre complicité, elle était sur le football pour dériver et ne pas parler des choses trop graves. Mmh. Et puis, je l'ai fait reparler de son enfance et du coup, il est redevenu mon père. Parce que là, j'ai l'impression, en étant malade, de devenir son arrière-grand-père, tellement j'étais fatigué.
Ouais.
Et lui est redevenu quelque part mon père et ça a donné une forme d'équilibre. Et je me suis dit, un jour, je ferai ce livre. Et puis, j'ai fini par le faire, mais il a fallu que je trouve plein d'équilibre entre son souvenir, le contexte historique, et comment j'ai pu essayer de me glisser dans ses pas aussi, parce que ça reste un personnage, bien sûr.
Écrite un peu à deux, donc, avec votre papa. Donc, Mathias Malzieu, Le Guerrier de Porcelaine, c'est un roman paru chez Albin Michel. Mathias Malzieu, vous ferez la Jupi Masterclass de cinéma à la fin de cette émission, bien sûr, on est ensemble. Vous faites partie de la troupe, n'hésitez pas à intervenir, à couper Guillaume Meurice, etc. Vraiment, surtout je vous encourage, même éventuellement. Vous savez que cette émission est une petite académie, une sorte de petite coupole. Une coupette, on pourrait dire. Bien sûr. Ça y est, j'ai soif. Avec un seul siège occupé par une linguiste. Tout ce qui manque à l'Académie française, en réalité, vraiment. Et nous, on remplit ça avec une seule personne. Voici la chronique stylistique de Laëlia Véron.
Merci, Charline. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une arme rhétorique bien efficace et quelquefois bien énervante, la négation polémique. On a eu un bel exemple il y a quelque temps avec Jean-Michel Blanquer et sa réponse à la grève enseignante contre le manque de moyens et la succession opaque de protocoles sanitaires.
On fait pas une grève contre un virus.
Vous vous rappelez? Voilà. Et ça, en fait, c'est un peu comme quand quelqu'un vous dit « ça va, je suis pas ta mère » ou « je peux pas tout faire ». Vous vous retrouvez coincé à dire « mais enfin, j'ai jamais dit que tu pouvais tout faire ». Pourquoi? Comment ça marche? Pour le comprendre, il faut revenir sur le fonctionnement de la négation en nous appuyant sur une distinction qui a été établie par le linguiste Ducrot entre négation polémique et négation descriptive. La négation descriptive, elle porte sur le contenu de l'énoncé, c'est un simple constat informatif. Par exemple, quand vous dites « il n'y a plus de café, il y en avait, il n'y en a plus, il faut agir en prenant en compte cette information, sortir acheter du café ou boire autre chose ». La négation polémique, elle, ne réfute pas un état de fait, mais un discours d'autrui, avéré ou potentiel. Un petit exemple d'actualité avec Christian Jacob quand il a dit qu'il n'avait aucun doute sur le fait que Sarkozy allait soutenir Pécresse.
Il est impossible, monsieur Jacob, impossible que Nicolas Sarkozy, comme on l'entend, comme on le lit,
soutiennent Emmanuel Macron pour la prochaine élection présidentielle. Vous ne le concevez même pas.
Moi, je connais la fidélité Nicolas Sarkozy à sa famille politique et je n'ai aucun doute.
Quand il dit « je n'ai aucun doute », il réfute les discours qui sont ici explicitement formulés par le journaliste de tous les gens qui pensent qu'il a peut-être des raisons d'en douter fortement. Ça, c'est une négation polémique. Mais ce qu'on emploie de plus, c'est la négation polémique de mauvaise foi. Quand on réfute un discours... La mauvaise foi, ça vous rappelle quelque chose,
oui,
hein,
oui, oui.
C'est ça. Quand on réfute un discours que l'autre n'a pas tenu, mais qu'on lui prête quand même. Ouais. Par exemple, quand vous dites « ah, c'est bon, j'ai pas quatre bras », vous attribuez à l'autre la position contraire, considérez que vous avez quatre bras. Et donc, la négation polémique de mauvaise foi permet de prêter un discours absurde à l'autre avant même de lui donner la possibilité d'ouvrir la bouche. Et cette négation va accuser l'autre de soutenir un point de vue intenable et lui demander implicitement de modifier sa position en conséquence. « J'ai pas quatre bras » ne veut pas seulement dire « tu penses que j'ai quatre bras et c'est faux », mais aussi et surtout « je te demande d'arrêter de penser ça parce que c'est absurde ». Et donc, c'est la même chose quand Blanquer dit « on ne fait pas grève contre un virus. Par cette négation polémique, il prête une position absurde aux enseignantes et enseignants en grève et leur demande de se reprendre. Face à ça, plusieurs réactions possibles. Soit essayer... Comment ?
La bagarre physique.
J'avais pas prévu, mais on pourra le rajouter. Okay. Soit essayer de réexpliquer sa position. Non, on ne fait pas grève contre un virus, mais contre un protocole sanitaire absurde et le manque de moyens. Soit essayer de retourner de manière ludique le discours de Blanquer. Par exemple, c'est toi le virus, ou on ne fait pas grève contre un virus, mais un minus. Slogan entendu en manif, hein, je ne fais que citer. Mais en fait, malgré tout, c'est embêtant parce que la négation polémique reste efficace. On retient la phrase « faire grève contre un virus » et l'idée. Donc, autre stratégie possible, bon, il y avait Guillaume la bagarre, mais sinon, si on veut jouer à la rhétorique politique, attendre par exemple l'Ibiza Gate, et quand Blanquer nous ressort une belle négation polémique comme...
Le symbole d'Ibiza, bon, l'hiver, c'est pas du tout comme l'été.
Lui répondre par une petite tautologie à Jean-Michel, Ibiza, c'est quand même Ibiza.
Il n'y a pas besoin de glaçons dans le mojito. C'est la différence avec l'été.
J'adore Charline, elle rebondit toujours en donnant un exemple. C'est la maîtresse préférée et l'étudiante préférée.
Voilà. Oh, merci Laëlia Véron. Mais donc si les politiciens font de l'absurde, ils font le métier des humoristes, en fait, puisque les humoristes, ils font de l'absurde pour faire exploser les logiques au bout. Et...
Ah ben, vous travaillez pas beaucoup, oui, c'est ça.
On va les laisser faire.
C'est pour ça que ça plaît à Guillaume.
Laëlia Véron, n'hésitez pas à la suivre sur Twitter, car elle débat beaucoup avec ceux qui la suivent. Merci, Laëlia.
Merci.
Restez avec nous, bien sûr. Hein. On ne sait jamais que nous fassions des négations, des...
polysémiques de mauvaise foi.
Voilà, des erreurs stylistiques. N'hésitez pas à nous reprendre, bien sûr.
Ah oui, c'est ce que j'adore faire dans cette émission.
Station, Stevie Wonder sur France Inter, vous écoutez par Jupy Class. Et la maîtresse est revenue.
Oui, attention,
ouais, bien sûr. Fait chanter Juliette Arnaud dans Par Jupy Class. Dites parce que moi j'ai un peu perdu l'habitude là. Qu'est-ce que s'il se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, moi ce que je vous propose, c'est de faire équipe avec le naze qui est à votre droite.
Alors ça c'est moi a priori.
Donc il y a Guillaume Meurice et à 17h22.
Je l'ai un peu pris pour moi.
Mathias Malzieu.
J'ai compris le nain.
Bon j'ai compris, il faut cadrer les choses. C'est le journal.
J'ai couru vite. Il ou elle courra.
C'est pas courra, mais c'est il courut.
Oui, bien sûr, d'accord. Bien sûr, évidemment. Bravo.
Le journal de presque 17h17.
C'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes zéro.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera de Nicolas Bay et d'espionnage.
Non, c'est Michael Bay. Transformers.
C'est Nicolas Bay, espionnage au Rassemblement National.
Oh là, oui, d'accord, c'est la version française de Transformers. Alors, oui, d'accord, ça,
on parlera aussi de l'état de la gauche.
Ah ben là, c'est la version française d'Apocalypse Now, carrément.
Et enfin, on parlera de Gérald Darmanin.
Ah, donc là, c'est plutôt viens chez moi, j'habite chez une copine. Et on commence par la politique.
L'eurodéputé RN Nicolas Bay a été suspendu du mouvement car il est accusé d'avoir transmis des informations confidentielles à l'équipe d'Éric Zemmour.
Oh là là, et ça n'arriverait jamais à Anne Hidalgo, ça c'est sûr.
Ah bah non, parce qu'à gauche, ils sont beaucoup plus respectueux.
Mais non, elle peut pas être trahie. Elle est toute seule. Et du coup, c'est pratique. Il n'y a pas de trahison possible.
Et selon les informations publiées par le Conseil constitutionnel, Nathalie Arthaud est la quatrième candidate.
Ah, allez, enfin, un sondage qui replace la gauche dans la course. Ouh, samba.
Non.
Quatrième, vous avez dit, c'est bien.
Nathalie Arthaud est la quatrième candidate à obtenir ses 500 signatures.
Je me suis un peu emballé, non?
Pas du tout, non. Allez. Non. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a publié un nouveau décompte des parrainages et un candidat a obtenu sa toute première signature. Oui. Il s'appelle Guillaume Meurice.
Tout à fait. Il s'agit bien de moi-même.
Ah,
donc, je vais d'ailleurs appeler immédiatement Arnaud Montebourg. Car je m'inscris dans une démarche de rassemblement de la gauche.
C'est ça.
Cette gauche qui a besoin d'un socle commun pour parvenir à transformer la société en profondeur.
Voilà, non, ça y est, vous êtes chiant. Là. Vous êtes chiant, ça y est. Vous êtes emmerdant, on enchaîne.
Ouais,
dans les Vosges, le maire de Bulgnéville a accordé son parrainage, lui, à François Hollande.
Allez, on se cotise tous et on paye une box internet au maire de Bulgnéville. Il est complètement bloqué en 2011. Ouais.
Et puis après ses propos sur le grand rassemblement, le grand. Est-ce qu'on peut faire rewind?
Non, c'est le principe du direct.
Voilà, il est 17h25. Nous passons au journal. Après ses propos sur le grand remplacement, Valérie Pécresse, c'est parce que j'arrive pas à y croire. Valérie Pécresse a déclaré, je cite, je déteste cette théorie.
Oui, et moi je déteste la galette des rois.
Attendez, vous avez bouffé que ça pendant tout le mois de janvier.
Oui, mais moi je suis comme Valou. Valou, elle aime pas les théories racistes, mais elle s'en nourrit. C'est pareil, moi avec la galette.
Invité sur France Info ce matin, Olivier Véran a annoncé la fin probable du port du masque en intérieur à la mi-mars.
En fait, pour réduire les contraintes sanitaires, il y a plus efficace que le vaccin. Il y a l'élection présidentielle, en fait. Voilà.
Et puis un policier qui souhaitait réentendre une victime de violence conjugale a laissé un message sur son répondeur, mais il a mal raccroché.
Et, oui.
Et on l'entend ensuite insulter la victime de, je cite, « grosse pute », notamment.
Voilà, pourtant les consignes du ministre de l'Intérieur sont très très claires. Quand on veut s'en prendre à une femme vulnérable, on utilise un texto.
Voilà.
C'est quand même pas compliqué.
Évidemment, bien sûr.
On voit les textos.
Dans son dernier rapport, la Cour des comptes établit un lien entre la surmortalité dans les EHPAD durant la crise Covid et le manque de personnel.
C'est pas vrai !
C'est fou.
Mais c'est quand même... C'est dingue !
Dingue.
Mais c'est incroyable ! Il manque du monde dans les EHPAD, les bras m'en tombent. Me dis pas que certains groupes privés d'EHPAD cherchent à optimiser leurs profits. Ouais. Mais c'est insensé.
Attendez, je suis... Franchement, sérieux, vous auriez pu profiter de mon absence pour prendre des cours de théâtre.
J'ai pas progressé du tout.
Bah, c'est en dessous du niveau de Valérie Pécresse, si vous voulez. L'Académie française s'inquiète du développement du franglais dans la communication institutionnelle.
Mais ils ont dû sacrément brainstormer après un solide benchmark des autres institutions pour rendre en speed ce rapport avant la deadline.
On parle temps de travail maintenant, car la Belgique lance une réforme incluant la semaine de 4 jours.
Oui, visiblement, Charline, vous avez bien anticipé cette réforme ces dernières semaines.
J'ai pris tous mes 5e jours d'un coup.
Tous les RTT par anticipation.
Hein, d'habitude, toute l'année, qui est là 5 jours sur 5?
Je sais plus, je me rappelle plus, c'était le monde d'avant.
Ça commence par CH, ça finit par IN. Afin de moderniser l'image de Meta, la société qui gère Facebook, Mark Zuckerberg a demandé à ses employés de s'appeler désormais les Metamates.
On pourrait faire ça aussi chez nous, ça s'appellerait les Jupimates, parce qu'on est français, Jupimates, il y aurait des chronimates. Là, Elia,
elle est diplômée, elle serait une diplomate.
Excellent.
C'est excellent.
Excellent, c'est excellent. C'est que... vraiment, oui. C'est fou.
Vous aimez l'humour après. Hein.
C'est fou. Non, parce que je me dis, c'est quand même marrant comment, en l'espace de 3 minutes, je suis passée de la joie de revenir vraiment à la consternation. Et ça, c'est vraiment très fort. Je ne sais pas. Bravo.
Ouais.
Bravo.
Non, mais ouais,
et merci quand même, Guillaume. Oui, voilà, non, donc voilà. Ce qui va permettre à Clara Dupont-Mono assez simplement de relever le niveau, je dirais, d'un simple petit index dédaigneux, ramassant comme ça le niveau de l'émission, le hissant vers la littérature, Clara Dupont-Mono.
Oui, en effet, ça n'est pas très difficile, Charline. Merci.
Alors, après, on est deux déjà, est trois avec Laëlia pour l'instant, enfin, et Juliette Arnaud, ça va.
Je ne me suis pas absentée, moi. Alors.
Oh, allez
non. Alors, le MEDEF, la chronique du MEDEF, tout de suite. Non, je sais que c'est difficile à croire, mais nous avons des points communs autour de cette table. Oui, en voici un. Nous nous sommes tous levés ce matin. Ça nous fait un point commun, ou pas?
Et moi, je peux vous dire que ça faisait 3 semaines et demie que...
Exactement. Vous vous êtes levés ce matin, et tôt en plus.
C'est plus que c'était.
Et toi qui nous écoutes, jeune auditeur du mercredi, petit renardeau des ondes, tu t'es levé ce matin, toi aussi, et tu as peut-être ressenti ça. Eh bien, une fois n'est pas coutume, mais j'ai là un livre qui contredit Jean-Jacques Goldman. Oh. Ah, je sais, ça me sera arrivé une fois. Un livre qui s'appelle « Odyssée ordinaire, le matin, mode d'emploi » de Blanche Le Ridon. Cet auteur a étudié le matin, ce moment où on passe de l'horizontal au vertical, et un instant bien trop souvent négligé, alors que la rivale du matin, qui est la nuit, alors elle a eu tous les honneurs, elle a beaucoup plus inspiré que le matin. Et d'ailleurs, la nuit des rois, les mille et une nuits, n'ont pas leur équivalent matinaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de matin.
Nuit de folie aussi.
Oui, voilà, nuit de folie. Mais vous venez de l'illustrer, Guillaume Meurice, le matin, on souffre de quitter la nuit et on doit aller bosser. C'est la fameuse France qui se lève tôt. Pourtant, le matin n'a pas toujours rimé avec douleur et labeur. Au Moyen-Âge, toujours en avance, il y avait la tradition musicale de l'alba, qui signifie aube en Languedoc, et qui consistait à chanter le lever du jour lorsque les amants se séparent. Alors, parfois, ils ne se séparent pas. N'oublions pas la scène torride du livre « L'amant de Lady Chatterley », hein, Blanche Le Ridon en reparle, quand le soleil naissant dard de ses rayons et que l'aube est caliente, c'est « Morning Glory », le matin est alors un boudoir. Cela dit, il y a aussi la tendance inverse le matin, prévient Blanche Le Ridon, fuir le conjoint, justement le matin. En français, on dit « coup d'un soir », en anglais, on dit « one night stand », mais « soir » ou « night », il n'y a pas de passe pour le matin. Et dans « Belle du Seigneur », de Albert Cohen, Solal et Ariane, qui sont les héros du livre, mettent un point d'honneur à éviter de se croiser le matin, surtout pour éviter que leur amour magnifique ne se heurte à la mauvaise haleine et au premier pipi. Qu'on a tous connu. Mais vous voyez, le matin cristallise nos peurs. Encore un exemple, l'expression « la grasse matinée » a été inventée au XVIIe siècle pour les femmes qui passaient trop de temps au lit et donc qui grossissaient et qui devenaient grasses. Le langage du matin révèle la peur de l'oisiveté qui est forcément féminine. Cela dit, quand on regarde 2022, on n'est pas très loin du XVIIe siècle et sa peur du matin gras. Tellement on nous pousse à être efficace le matin. Avant 7h, il faut avoir bu son jus de légumes, avoir fait sa séance de yoga, répondu à ses mails, pris une douche vivifiante. Le matin est devenu productiviste. Et je cite Blanche Le Ridon, « Le temps du matin est l'otage de nos aliénations ». La publicité s'en est mêlée, elle a mythifié notamment le petit déjeuner. Et notons que l'affirmation « Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée » est apparu au XXe siècle dans un journal américain qui appartenait à un certain John Harvey Kellogg. La boucle est bouclée, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors il te reste une chance, auditeur Ronardo, d'échapper à ce marketing du matin, c'est de rester couché. Et ça, c'est le principe de l'ikimori. C'est un mouvement japonais qui est apparu au début des années 90, qui touche principalement les jeunes. Ikimori signifie « se retrancher » en japonais. Et ça consiste à ne pas sortir de son lit. Il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de dépression, il y a juste le retrait. Alors mine de rien, c'est un adolescent sur 100 qui est concerné au Japon, qui en a du coup fait un enjeu de santé publique. Donc à toi, jeune auditeur, je dis deviens ikimori. Pas d'école demain matin, tes parents pourront nous écrire. Et lire aussi « Odyssée ordinaire, le matin, mode d'emploi » de Blanche Le Ridon qui est paru chez Bouquin.
Merci Clara Dupont-Mono.
Et il y a toute une partie, Charline, je vous le dis, sur les informés. sur la matinale de France Inter avec ceux qui se lèvent très 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 tôt.
Ah oui, évidemment.
Ça vous parlera.
Se lever avec les informations, mais quelle idée.
Et bah, c'est exactement ce qu'elle dit.
Mais vraiment, mais quelle idée. Faites attention, hein, parce que des fois, ça peut être dangereux.
Prenez soin de vous.
Mathias Malzieu, quel est votre rapport au matin? Est-ce que c'est un moment que vous appréciez, qui est productif chez vous quand vous écrivez? Là, vous écrivez des chansons en ce moment.
Alors, c'est un matin, mais c'est un matin où je triche, parce que c'est un matin de la nuit qui se prolonge.
Ah.
C'est-à-dire que j'ai tendance... J'adore le matin, en plus. Le peu de fois où j'arrive à résister ou carrément me lever très tôt. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être dans ce cocon de la nuit et être joyeux dans ce moment où, bah, effectivement, il n'y a pas de mail, il n'y a rien d'autre.
Ouais.
Et il peut m'arriver d'aller me coucher le matin, par exemple.
Ah oui.
Ça,
ah,
ça c'est le luxe ultime renverser.
C'est l'inversion, elle me vient de l'adrénaline des concerts, en fait. À force d'être habitué d'avoir des décharges d'adrénaline tard le soir, eh ben, on ne peut pas redescendre tout de suite. Et j'ai pris une espèce de joyeux mauvais pli depuis une trentaine d'années.
Ah oui. Donc actuellement, vous écrivez des chansons pour un prochain album, c'est ça?
Exactement.
Pendant la nuit,
exactement.
Dans ce cocon.
Pendant la nuit, ouais, voilà, exactement. En regardant la Seine qui coule en face de ma fenêtre.
En regardant la ville comme ça, de haut, bien sûr.
Très littéraire.
Oh, ouais, c'est beau, c'est romantique. Mathias Malzieu avec nous, qui nous offre une Jupi Masterclass à la fin de cette émission, les amis. Il y a un piano aussi dans ce studio. Et alors, coup de bol, comme quoi cette émission est vraiment bien préparée. Il y a un piano. Il y a une chanteuse rigolote aussi dans le même studio.
Ça, c'est fou quand même. Incroyable.
Et puisque la musique adoucit les mœurs et qu'elle en a de douteuses de mœurs, eh ben, on n'est pas parti pour être adouci. Yédré, c'est à vous.
Merci. Il était une fois, il n'y a pas du tout longtemps de ça, une armée de scientifiques qui ont écrit des articles. On a lu, on s'est dit, ça fait peur ce qui est écrit. C'est quoi, c'est ça la Malek? C'était le rapport du GIEC. Ça disait qu'en 2100, y aurait plus de Nouvelle-Orléans, y aurait plus de Miami, sans doute plus de New York aussi. Mais 2100, c'est loin, nous, on s'en bat les reins. Balèque les océans, on sera mort depuis longtemps. Mais pas toi, pas toi. Et nous, on est foufou, on brûle la vie par les deux bouts. C-A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème à toi. Et si tu veux voir Jakarta, eh ben vas-y maintenant. Ah, tu peux pas, t'as que 3 ans. Si tu veux pas crever de chaud, va falloir être plus écolo. Parce que nous, on va mourir. Mais toi, tu vas grandir. Quand on sera mort et que tu seras grand, qu'il fera 50 degrés au Mans, faudra pas venir te plaindre de te voir aller vivre dans l'Indre. Va falloir y mettre du tien, parce que le monde qui vient, on va le quitter bientôt. C'est pas nous qu'on va manquer d'eau. Non, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est toi. Parce que nous, on est foufous, on brûle la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'on s'en fout, pour ça qu'on fait rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème. C'est ton problème et pas le mien. Sous prétexte que t'y peux rien, je devrais faire pour toi des trucs dont je ne profiterai pas. Mais toi, tu fais quoi pour nous, à part nous coûter des sous, crier fort dans les transports, te réveiller à 6 heures. Et puis si t'es pas content, t'as qu'à écrire aux dirigeants. Mais sans vouloir te décevoir, faut pas que t'y mettes trop d'espoir. Eux, il leur reste au mieux 20 ans pour croquer la vie à pleines dents. Tu sais, il faut les comprendre, ils ont autre chose à défendre. Que toi, oui, que toi. Tu sais, eux, ils sont foufous, ils brûlent la vie par les deux bouts. C'est A-R-P-E-D-I-E-M, carpe diem. C'est pour ça qu'ils s'en foutent, pour ça qu'ils font rien du tout. Parce que tout ça, c'est ton problème.
Bravo! C'était Yédré, une chanson dédiée à tous les petits éco-anxieux de la planète.
Ça va mieux.
Pour vous les enfants. Merci Yédré au piano, venez nous rejoindre. Londres. Vous pouvez évidemment la réécouter en vidéo, en podcast, en spray, en tablette. N'hésitez pas, abusez-en. C'est Guédré. Juliette, qui fait partie de la troupe de Parjupiclas aujourd'hui?
Eh bien, on s'est déjà régalé avec Clara Dupont-Mono. Guédré, donc, la Lia Véron. On se languit d'entendre Rukyata Ouédraogo et Mathias Malzieux. Mais avant, voici celui qu'on appelle la purge.
C'est le meilleur lancement que j'ai jamais entendu. Alors, les pitchounes, attention, leçon sérieuse aujourd'hui. On va apprendre le journalisme tous ensemble, spécialement voilà pour le retour de Charline. Car je rappelle qu'avant de faire des gardes d'enfants attardés tous les mercredis, Charline, vous étiez journaliste. Alors, le journalisme, c'est vaste, puisque ça peut être à la fois demander à Marine Le Pen le nom de son chat ou à Zemmour la marque de son slip. Hein, ça, c'est C8 ou France Inter, je sais plus qui fait ça. C'est très vaste. Ça peut être Jean-Jacques Bourdin, reporter piscine pour la Gazette du Pédiluve. C'est vrai qu'il bosse pas mal sur le rôle du chlore dans les agressions sexuelles. Il donne de sa personne. Voilà, Jean-Jacques. Alors, ça peut être des enquêtes de terrain. On se souvient tous des excellents reportages de Bernard de la Villardière sur l'islam. L'islam dans les cités, l'islam à la ferme, l'islam à la plage. Le rôle de l'islam dans l'œuvre de Petit Ours Brun, avec notamment Petit Ours Brun fait le djihad. Voilà, qui pose quand même toutes les questions. Mais tout ça, c'est quand même flou, le journalisme, parce que c'est vaste. Et quand c'est flou, Charline.
C'est qu'il y a un loup.
Elle est de retour. Elle est de retour dans le sang. Quand elle cite Martine Aubry, c'est qu'elle est de retour. C'est que ça va bien. Alors, je suis allé voir les gens dans la rue ce matin. Quels sont leurs journalistes de référence?
Moi, c'est Laurent.
Qui
Laurent
ça
Delahousse.
Votre préféré, c'est Laurent Delahousse?
Ah ouais.
Qu'est-ce qu'il a de si particulier alors?
Il a une belle gueule, déjà. Ouais. Il est sympa. Donc
mais
il...
est-ce qu'avoir une belle gueule et être sympa, ça fait de lui un bon journaliste?
Bah oui.
Bon, c'est vrai qu'il est beau.
Il est beau, non, il est sympa.
Il est beau et il est sympa. Quand il a fait l'interview de Macron, on s'en souvient, il était hyper sympa. À chaque fois qu'il reçoit un ministre, il est sympa, il soigne les finitions. Voilà, il est comme ça. Puis la mèche à Lolo, c'est une sorte de Jean-Louis David à carte de presse. C'est magnifique. Laurent Delahousse, on garde, on continue. Qui est là ou le meilleur journaliste?
Cyril Hanouna. Le 20h face à Baba, face à Cyril Hanouna.
On peut bien s'informer avec Cyril Hanouna?
Il y a 8 chroniqueurs, 10 chroniqueurs autour de lui, une blonde, une brune, un milliardaire, et voilà.
Et est-ce que ça, c'est de l'information?
Mais bien sûr, chacun son point de vue.
Est-ce qu'on peut faire, par exemple, dialoguer un climato-sceptique et un scientifique qui a fait 30 ans d'études sur le sujet?
Bien sûr, Raoult va souvent chez Hanouna.
Ouais.
Oui, Docteur Raoult,
oui, c'est vraiment une preuve voilà, qu'on peut correctement s'informer chez Hanouna. C'est vraiment un bon argument, ça, les enfants, gardez-le. Donc c'est vrai qu'il y a Docteur Raoult qui débat avec Loana, Mathieu Delormeau, Marlène Schiappa, Yann Moix. Bon, normalement, le prix Albert Londres devrait pas échapper à l'émission cette année. Allez, continuons à apprendre à bien s'informer avec cette dame.
Eh ben, écoutez, du monde que j'ai eu 45 ans, ouais. Je suis passée au Figaro.
Parce d'accord.
Que islamo-gauchisme, wokisme, tout ça, ça vaut.
Le monde est devenu islamo-gauchiste.
Ah ouais, attendez, non.
Attention, les enfants, le monde est devenu, c'est vrai, wokiste, islamo-gauchiste. Voilà, le monde is venu têtu beurre FM politis. C'est vrai que Xavier Niel, vous le croisez tous les soirs dans les bars à chicha. Hein. Si vous connaissez Paris, Mathieu Pigas, c'est de l'écriture inclusive. À la base, c'est Mathieu Piga. Il a fait point. Ben oui, mais on le sait, ça. Voilà, on sait bien. Alors, si le monde est devenu islamo-gauchiste, je vous explique même pas France Inter.
La France de gauche qui se marre à France Inter, c'est terminé.
Vous aimez pas les gens qui se marrent?
Ben écoutez, il y a une forme d'humour à France Inter que j'apprécie guère.
Qui est-ce que vous détestez comme humoriste à France Inter?
Ah non, je les écoute plus. Alors, je reprends dans Marianne, ils écoutent encore, ils racontent les conneries de France Inter. Donc voilà.
Oui, vous écoutez France Inter via Marianne.
Voilà.
Alors ça, c'est toujours un conseil qu'on peut vous donner, les enfants. Si vous voulez vous faire une idée, un avis sur un média, n'écoutez pas le média. Écoutez vraiment ceux qui détestent le média. Écoutez donc Natacha Polony, qui ne daigne pas quand même de temps en temps prendre un petit billet sur le service public. Hein, parce que la soupe de la cantoche de Radio France, c'est pas dégueu quand même. Et puisqu'on parle journalisme, quand même parlons Mediapart.
Non, Mediapart. Monsieur Plenel, ce type-là, quand il cause à la télé, il plisse les yeux, on ne voit pas son regard. Et moi, j'aime...
Et vous n'aimez pas Plenel parce qu'on ne voit pas ses yeux?
C'est curieux, il a un visage, on voit pas son regard et ça me gêne terriblement.
Oui, on reconnaît bien ici la conseillère en communication de Gérard Darmon. et c'est vrai qu'Edoui Plenel, il est comme ça, on voit pas ça, le fourbe! Il est fourbe! Vous voyez les enfants, c'est toujours important d'avoir des arguments de fond. Vraiment, pour remettre en cause le travail d'un journaliste indépendant, s'il y a une tache de sauce tomate sur sa chemise ou un grain de beauté sur son cul, c'est qu'il est nul. C'est défoncez-le. Les arguments, toujours des arguments contre Mediapart.
Il sert dans les poubelles, non mais c'est vrai, il y a des fois, ouais. Mais vraiment oui. Des fois ils vont trop loin. Ils m'écœurent.
Mediapart, ils vous écœurent?
Oui.
Quand est-ce qu'ils ont été trop loin là?
Mais c'est tout le temps.
Tout le temps ils vont trop loin?
Ouais.
Mais s'ils disent des choses vraies?
Oui, en fin de compte, des fois oui, mais des fois ils vont vraiment trop loin. Et... trouve ça dégueulasse.
Pareil, ça m'écœure, c'est dégueulasse. Les enfants, rassurez-vous quand même, hein, heureusement qu'il reste la presse détenue à 90% par des milliardaires, donc ouf. Presse qui évoquera sans doute assez peu le documentaire coproduit par Mediapart et Première Ligne, réalisé par Valentine Auberti et Luc Herman, qui s'appelle Media Crash. Bon, on peut encore en parler, puisque là, on est encore pour combien de temps sur le service public. Bref, vivons heureux en attendant la privatisation.
Merci Guillaume. Vous allez faire quoi, vous, après la privatisation, alors?
Mais j'ai des plans en Belgique. Je connais très bien une Belge qui m'a dit je t'héberge.
Ouais. Ça, c'est marrant, parce que j'ai un plan avec un journaliste d'investigation de mauvaise foi. Ça doit être nous, alors.
On va y penser.
On va chercher une petite maison, des petites annonces. Si vous trouvez une maison pour accueillir la troupe de par Jupiter dans pas trop longtemps. Vers Bruxelles, ça nous intéresse. Kangoo avant. Etc. N'hésitez pas à passer par nous, 17h42 sur France Inter, vous écoutez par Jupi Class. Et maintenant, parce que je me rappelle maintenant, ça revient. L'heure Mathias Malzieu, vous voyez, c'est un truc, c'est en interne en moi, j'ai une horloge interne avec cette émission. Et là, même les yeux fermés, je peux vous dire, c'est des exercices.
C'est exactement ça. Ouais. J'y vais ?
Allez,
j'y vais. Selon ses dires, Éric Zemmour aurait eu une discussion téléphonique avec Donald Trump qui lui aurait donné de précieux conseils pour sa campagne. Mais ce n'est pas la première fois qu'un candidat reçoit des conseils extérieurs. Parmi les informations suivantes, lesquelles sont vraies ? Réponse A, Arnaud Montebourg a tenté d'appeler Barack Obama, mais il est tombé sur sa messagerie. Réponse B, Nicolas Bay a reçu un coup de fil de Zemmour, comme Gilbert Collard, Stéphane Ravier, Jordan Bardella, Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal. Réponse C, Christiane Taubira a reçu un appel d'Aimé Césaire pour faire un plein de citations. Et réponse D, Valérie Pécresse a reçu un coup de fil de l'Académie des Oscars.
Ah, c'est pas facile,
c'est pas
ça.
Mal, ouais. Ça. À mon avis, ça doit être ça la réponse. Mais bon, on y va.
On souffle pas.
On y va. Selon un sondage, les anciens électeurs de Benoît Hamon. Écoutez bien, chers auditeurs,
parce que c'est vous.
Selon un sondage, les anciens électeurs de Benoît Hamon préfèrent voter Pécresse plutôt qu'Hidalgo, Taubira ou Mélenchon. Bon, c'est un sondage après. Hein. Mais où peut-on trouver des anciens électeurs de Benoît Hamon ? Petit A. Dans un magasin Naturalia. Petit B, au pays de Candy. Petit C, dans la salle de spectacle où se produit Guillaume Meurice.
Ah oui,
petit D, il n'y en a plus. Ils se sont tous fait harakiri en se tranchant les veines avec une feuille d'aloe vera achetée en circuit court.
Plusieurs réponses possibles.
Guillaume.
Oui, exercice. Tinder veut pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Mais quel est le slogan de cette campagne ? Sauras-tu le retrouver ? Réponse A. Tu cherches un candidat chaud dans ta région ? Envoie vote au 8-12-12. Vote au 8-12-12. Réponse B. Mieux qu'un plan cul, un plan quinquennat. Je le fais avec l'intonation. Hein, sans, voilà. Réponse C. Si tu dates en bas de chez toi, alors vote en bas de chez toi. Je vous rappelle qu'il y a une bonne proposition là-dedans. Réponse D. Glisse ta main dans l'isoloir, lèche l'enveloppe et insère le bulletin dans ton urne.
C'est des propositions.
Mais oui. Et il y en a une de bonne. C'est peut-être ça le plus extraordinaire.
Oui, malheureusement, chacun de ces exercices contient une bonne réponse que vous pouvez éviter de connaître en ne consultant pas la page Facebook de notre émission, bien sûr. Voici à présent une séquence que j'intitulerai « Tout ça ne nous rendra pas la haute volta ». C'est le moment qui vous est offert par votre redevance, d'une part.
Déjà,
c'est vous qui payez.
Et par Rukyata Ouedraogo en grande partie quand même aussi, Rukyata.
Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de supermarchés et de papotage. La presse offre parfois des télescopages étonnants. Tenez récemment, le journal La Dépêche s'émerveillait du fait qu'une enseigne de supermarché expérimentait le blabla caisse. Ces caisses seraient dédiées au bavardage avec les clients. Le journal salue une expérience rare dans un secteur où l'automatisation des caisses nuit gravement à la chaleur humaine. L'article cite la communication de l'enseigne. Cette démarche donne du baume au cœur et cela rappelle à quel point le commerce est un lieu de rencontre et d'échange. Quelques jours avant, le journal Lutte ouvrière signalait des grèves et des débrayages dans certains magasins de cette même enseigne et dénonçait les conditions de travail des salariés. On y apprenait que certaines caissières, contraintes au temps partiel, ne gagnaient que 1000 euros net par mois pour 30 heures hebdomadaires. Bah, du coup, il est facile d'ironiser sur la nature des conversations au blabla caisse. Bon alors, mamie, vous voulez parler de quoi aujourd'hui? Bah, de la météo, de la santé de mon chat et des émissions de Nagui à la télé. Ah non. Moi, je suis payée 1000 balles. À ce tarif-là, je n'accepte qu'un sujet par client. Deux à la rigueur, mais pas trois. Mmh. Bon, alors, la météo. Demain, il fera froid sur l'ensemble du territoire. C'est normal, c'est l'hiver.
Vous pouvez développer un peu?
Ah non, on n'a pas le temps. Vous avez vu la queue derrière vous? On n'est pas des robots, nous. Il est facile d'ironiser en effet sur ce genre de gadget supposé permettre à la grande distribution d'offrir une bonne image d'elle-même. Mais moi, je porte un regard nostalgique sur ça. Oui, j'ai été caissière. Ça a été un de mes premiers boulots quand je suis arrivée en France. C'était chez Shopee. Bip, 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 je scannais. Voilà, c'est ça. Je fais avec les moyens de bord. Bip, bip. Oh, bonjour, monsieur Litron. Oh, 12 bouteilles de vin. Bon, je ne veux pas me mélanger de ce qui ne me regarde pas, mais il me semble qu'il y a 2 jours déjà, vous avez pris 6 bouteilles de vin. Dites-moi, vous avez du monde en ce moment à la maison? Non? Ah ben, monsieur Litron, faut y aller mollo-mollo, hein. Vous savez très bien que l'abus d'alcool est très très dangereux pour la santé. Surtout avec les hémorroïdes que vous avez en ce moment, moi je vous le dis, hein. Oh, une minute, s'il vous plaît. Monsieur Lagoulette, alors, ce mafé, vous avez aimé? Mieux que la dernière fois? Ah, vous voyez, les aubergines amères, il n'y a pas mieux. J'ai encore d'autres recettes pour vous. Bon, bref, je parlais à tout le monde. Je laissais passer les clients à qui il manquait quelques centimes. Je quittais ma caisse pour aller aider les personnes âgées à pousser les caddies. Et comme je venais d'arriver, je confondais les francs CFA et les francs français à l'époque. Ma patronne m'a remercié au bout d'une semaine. Elle m'a convoqué dans son bureau et elle m'a dit « Rukieta, vous êtes pleine de bonne volonté. Vous irez très loin dans la vie, mais pas ici. » Ah, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que j'étais avant-gardiste. Mais j'avais déjà inventé une technique de convivialité que les ingénieurs de la grande distribution, avec tous leurs diplômes, ne découvrent qu'aujourd'hui. Bon, enfin, soyons humbles, hein. Je ne faisais que reproduire ce qui existe déjà chez moi sur tous les marchés africains. Pour 1 kilo d'oignon, il faut compter facilement une demi-heure de salutation, 20 minutes de négociation du prix et un quart d'heure d'engueulade pour l'ambiance.
Rukieta Ouedraogo, Rukieta, vous faisiez des blagues aux clients ou pas?
Ben, je parlais, bonjour, comment allez-vous, voilà, enfin tout ça quoi. Pas de blagues parce que j'étais pas dedans à l'époque.
Ah c'est vrai. Ouais. Ah, vous avez découvert votre pouvoir comique plus tard.
Plus tard.
Après.
Oui.
Dites donc. Voilà. Non, je voulais savoir.
Non, oui.
Je fais un peu d'investigation. Moi j'ai envie de connaître les gens avec qui je travaille. Pardon, si ça ne vous intéresse pas, de savoir ce qu'a fait Rukieta dans la vie avant, alors que c'est votre collègue qu'elle voyait tout le temps, c'est votre problème.
C'est vrai.
Moi
qu'on
j'ai envie
s'en
de connaître.
Avant, elle a
un petit peu. Voyez, Mathias Malgieux, vous voyez comment c'est à la radio, c'est fou quand même. Hein. Rukieta, vous jouez samedi à 20h30 à HR dans les Yvelines.
Oh.
C'est ça?
Merci.
Je vous l'apprends,
bah,
notez-le. Parce qu'on peut
non,
si. Bah, oui, bah si, quand même, bien oh. sûr. Bien sûr. Allez, à venir.
Charline est de retour et en pleine forme.
Oui, alors ça, vous savez, c'est jusqu'à 18h. Après, on verra. Avant d'écouter Mathias Malgieux dans ses œuvres, mais plutôt de chronique cinématographique, passons à la chanson.
J'ai besoin de faire fête. J'ai trop d'anglais dans la fenêtre. Thank you.
penses et ça se voit. Tu y penses
et ça se voit.
Jacques, ça se voit sur la playlist France Inter. Rukyata Ouédraogo nous racontait dans sa chronique qu'elle avait été caissière. Qui dans ce studio a été caissier ou caissière?
Oui,
oui. Wow.
Clara Dupont-Mono.
Oui, mais moi c'est au rayon bijoux.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai?
Oui.
Juliette?
Oui, moi caissière, ouais.
Ah d'accord.
Ouais.
Ouais.
Guillaume?
Oui, au supermarché.
Lafayette Gourmet.
Mais non.
Oui.
Ah, c'est vrai?
Oui.
Sans rire.
C'est vrai.
Et vous, Mathias Malzieu?
Moi, j'ai officié à Beignets Turbo, à Palavas-les-Flots. J'ai vendu des beignets. Je me suis cassé la gueule sur une digue. J'ai fait tomber des beignets dans le sable. Et après, quand on les mangeait, ça faisait des bruits comme si on avalait du verre brisé.
Beignets Turbo.
Et voilà, comment s'éteint une vocation. Voilà. Et maintenant, ils vendent des galettes, c'est-à-dire des disques. Oh
Humour,
ça, il m'a fallu 3 semaines et demie pour arriver à ce niveau-là, si vous voulez. C'est pas donné à tout le monde, il faut prendre un peu de recul, un petit peu de respiration, se recentrer, et puis après on arrive à ce niveau, tout simplement.
Mais ça. Mis à Ibiza.
Allez, je préparais le protocole sanitaire pour Radio France. Mathias Malzieu, oui, mais c'est le moment de la surprise de l'émission, la Jupy Masterclass de cinéma, qui n'est jamais tout à fait la même, ni jamais tout à fait une autre.
Mais même, elle me comprend.
De film, exactement, Juliette. C'est un moment de partage offert donc par Mathias Malzieu.
C'est parti?
Ouais.
Allez. Je me souviens exactement le jour où j'ai vu ce film, Dead Man de Jim Jarmusch. Autant le dire tout de suite, il a changé ma vie. C'était un mardi gras. Si gras que la pleine lune ressemblait à un fantôme de crêpe géante, un tout petit peu trop cuite. Et puis, c'était tellement carnaval partout que même les chiens étaient déguisés en chiens déguisés. Et moi, j'étais déguisé en moi, à savoir un étudiant de cinéma qui se faisait des films avec ses rêves, tout en rêvant de faire des films. Films que j'allais voir avec une fidélité presque bigote. Le pop-corn était mon hostie. Aussi, je faisais attention de ne le croquer que pendant les scènes d'action ou d'amour non romantique. Je n'ai pas mangé le moindre pop-corn pendant Dead Man de Jim Jarmusch. Peut-être parce que j'avais avalé autant de crêpes qu'un jukebox des années 80, les 45 tours de Joe Dassin. Le fait est que j'ai oublié de manger. J'ai également oublié d'analyser le film avec mes outils tout neufs d'apprenti cinéaste. Hypnotisé sous le charme. Électrocuté en douceur par la guitare omnisciente de Neil Young. C'est quoi ce truc, me répétais-je ébahi. Un western de Kafka avec Charlie Chaplin? Un film de fantôme en noir et blanc avec Iggy Pop en femme? Un western sans cow-boy qui donne envie d'être indien pour toujours? Et cela sans militer pour autre chose que la poésie? Celle qui frotte le silex du rire et du drame? Qui vous touche en faisant mine de ne pas y toucher? Ce truc pas très à la mode par les temps qui courent? La nuance joyeuse? La mise en place de l'histoire est un tour de magie au ralenti. On embarque dans un train à vapeur de Cleveland jusqu'à la ville minière de Machine. Un vraiment Neverland au bout du very far west. William Blake, le personnage principal, brigue un poste de comptable, comptant surtout laisser son ancienne vie le plus loin possible. Et rien ne se passera comme pas vraiment prévu, et notre petit comptable se retrouvera avec une balle dans la peau, affublé d'un indien qui s'appelle Personne, et le prend pour le fantôme de son homonyme, le poète anglais William Blake. Ce quiproquo poétique est le point de départ d'un voyage initiatique chamanico-comique. Si, ça existe. En tout cas, dans ce film, ça existe. Plus les personnages traversent, plus nous sommes traversés par eux. On prend la contre-allée, comme disait Bachung dans Aucun Express, un chemin de traverse. C'est un appel à la forêt, à la camaraderie de bout du monde, avec un Indien à lunettes qui cherche du tabac. Il veut absolument du tabac, cet Indien. On ne suit pas le personnage, on le devient. On vibre vie et discute avec cet Indien qui vous prend pour un fantôme de poète et tout est doux. Même quand on meurt. Ce film est extraordinairement simple. C'est peut-être ce qui lui donne la possibilité d'être profond. Une caisse de résonance entre le cœur et le cerveau du spectateur, harmonisée par les échos de guitare. Une expérience de cinéma, comme on dit. En sortant, je voulais être cinéaste indien, poète américain, train à vapeur, cheval noir à taches blanches ou l'inverse, et dans ce cas, je serais sauvé par le fantôme de Nietzsche en personne. Je suis reparti dans le flot du carnaval, avec les chiens déguisés en chiens, déguisés en chiens, déguisés en chiens. Et j'ai eu l'impression de devenir un petit peu plus moi-même que les autres jours. C'était en 1996, et je crois assez joyeusement que je ne me suis toujours pas remis de ce film. Merci beaucoup.
Mathias Malzieu, merci. Vous avez vu ce film il y a combien de temps ?
96, ouais. Ben, du coup, ça fait 17 ans.
Ah ouais.
Mais je l'ai revu quelques fois.
Plusieurs fois.
Je l'ai revu quelques fois parce qu'ensuite j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Jim Jarmusch. Et ça a été effectivement l'étincelle. Donc je l'ai revu. Je triche un peu parce que je le connais bien.
Ouais. Et à chaque fois que vous le voyez, vous voyez des choses que vous n'aviez pas vues avant.
Alors l'effet de surprise, évidemment, a diminué. Mais c'est vrai qu'il est, il est multicouche, ce film. Ouais. Il y a vraiment, on peut rire, il y a toutes les sensations. Et en plus, il est complètement désintellectualisé. C'est vraiment un truc à ressentir, quoi. C'est vraiment une hypnose.
Merci Mathias Malzieu.
Merci de
nous
beaucoup
avoir
à vous.
Partager ce film et avec cette magnifique chronique radio. C'était une première en chronique ?
Première fois.
Oh, dites donc, bravo merci et merci de nous l'avoir offerte. Mathias, je rappelle bien sûr aussi votre roman qui s'intitule Le guerrier de porcelaine de Mathias Malzieu. C'est paru chez Albin Michel. Si vous voulez notamment participer aux conversations de famille chez les Malzieu, c'est un petit peu l'idée. Chers amis, on va passer au dessin. Je vous propose plutôt un espèce de petit défi. Récite une fable de La Fontaine à la manière de Valérie Pécresse lors de son meeting de dimanche. Tu fais une petite note vocale que tu nous envoies à l'adresse parjupiter@radiofrance.com. Tu peux évidemment adapter cette fable en racontant le grand remplacement des lièvres par les tortues ou le grand remplacement du corbeau par le renard. Bien sûr, n'hésite pas à adapter. Merci à tous les amis. Merci. Et puis merci à vous, chers auditeurs, pour tous vos adorables courriers, papiers ou emails pendant mon absence. Ça fait chaud à mon petit cœur bien pensant et bien aimant aussi qui vous embrasse. Merci à toute l'équipe de Par Jupiter d'avoir si bien fait tourner la boutique. Hein, a priori, on n'est pas encore tombé en faillite, donc je vais pouvoir repartir à Acapulco. Prenez soin de vous surtout. Je vous dis à demain. Nous recevrons Amanda Lear.
Les femmes de caractère, elle est bélier très certainement.